Ben, chers amis, bonsoir. C'est une première pour les éditions du Norrois de faire une activité en semaine un mardi soir. Alors, pourquoi pas? Donc, c'est une belle réponse. Merci d'être là. Donc, pour cet entretien entre Georges Leroux et Paul Chamberlain, je vais laisser le soin à Georges de présenter Paul Chamberlain. Georges Leroux, vous le connaissez sans doute, professeur émérite de philosophie à l'UQAM. Membre de l'Académie des lettres du Québec. Il a écrit un livre formidable il y a quelques années autour de Glenn Gould, qui a été un livre vraiment marquant pour un essai formidable. Et donc, au cours de la prochaine heure, vous allez entendre des poèmes et cet entretien entre Georges et Paul. Alors, voilà.
Alors, bonsoir à tous. Merci d'abord à la librairie Olivieri de nous accueillir, d'accueillir la poésie, ce qui n'est pas si fréquent, mais quand même, d'accueillir les éditions du Norrois et surtout d'accueillir notre cher ami Paul Chamberlain. Alors, contrairement à ce qui est l'usage et souvent un code un peu habituel, Paul et moi avons convenu que nous n'allions pas nous vouvoyer, que c'était impossible après tant d'années. Même devant vous, on le fait parfois à la radio, vous le savez, mais là ce soir non. Alors voilà, alors je voudrais d'abord dire un mot personnel. Je connais l'écriture de Paul depuis ses tout débuts, c'est-à-dire que j'ai des souvenirs très précis et brûlants de son tout premier recueil quand j'étais étudiant de philosophie à l'Université de Montréal dans le début des années 60. Et Paul, en fait, me précédait à la faculté de philosophie, parce qu'on oublie que Paul a eu une formation de philosophe et, en fait, que cette formation est profonde. C'est une formation qui l'a imprégné et qui, j'espère le faire voir tout à l'heure, laisse des traces dans sa préoccupation poétique et dans son poème aussi. Donc, ça, je crois que c'est quelque chose que j'aimerais rappeler. Et donc, ce premier recueil, qui est un peu introuvable aujourd'hui, bien sûr, il a été réédité, c'est Genèse, qui était publié presque dans une édition un peu comme ça, maison, par l'Association des étudiants, en fait, de l'Université de Montréal, au moment où la grande révolte qui allait devenir 1968, se préparait chez nous aussi. Et Paul a accompagné dans sa poésie non seulement cette révolte, la revue Parti pris, l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler l'évolution et la transformation politique de la société ici au Québec. Et accompagner n'est pas tout à fait le bon mot. La poésie de Paul a été un moteur de cette transformation. On ne peut pas demander aux poètes de tout faire, mais dans le cas de Paul, il a fait beaucoup. C'est-à-dire qu'il était au point de départ avec les amis de Parti pris, quelqu'un qui faisait énormément de choses, et on va reparler de ça ce soir parce que devant le moment actuel de son œuvre, on voit que on est mis en présence d'une persistance du politique dans son écriture, et j'y ai été très attentif, en particulier donc dans les deux ou trois derniers livres qu'il nous a donnés, parce que cette persistance du politique, elle se marque non seulement dans une protestation qu'il appelle lui-même morale, l'expression figure dans le dernier recueil, c'est la voix nue est une protestation morale, mais cette protestation morale s'adresse à quelqu'un. Et donc, elle s'adresse à nous, bien sûr, dans la mesure où chacun de nous est invité à reprendre le geste du poète pour le faire, en quelque sorte, pour lui-même. C'est-à-dire qu'il faut investir derrière le poète et avec lui la révolte devant l'inacceptable, devant l'intolérable. Mais il faut aussi aller au-delà, c'est-à-dire que il faut que cette protestation devienne dans nos vies, si j'ose dire, comme elle l'est pour le poète, une forme de substance. Alors, si j'ai donc voulu faire ce petit prolégomène, c'est tout simplement pour dire que Paul m'a beaucoup donné personnellement, je n'ai cessé de lui dire ma dette, sans doute voulez-vous dire la même chose, et je considère que c'est un privilège et une joie sans nom d'être avec lui, avec vous ce soir dans cette rencontre que nous voulons ensemble absolument amicale. Alors, j'ai structuré un peu l'entretien sans vraiment qu'il y ait de concertation entre nous, mais pour que les principaux aspects de la poésie de Paul et de sa pensée soient présents dans notre entretien. Alors, je voudrais commencer en disant que dans un texte, on en parlait il n'y a pas longtemps, lui et moi, dans un texte très récent, que vous pouvez lire puisqu'il est publié, c'est sa contribution aux actes du colloque de l'Académie des lettres du Québec, « La poésie comme expérience », qui est publié chez Urtubise. Paul a donné à ses actes un très beau texte, un texte qui en fait reprend ce qu'il a dit, mais va un peu plus loin. Ça s'appelle « À la limite de la pensée, la poésie ». Alors, à la limite de la pensée, c'est une expression qui nous interroge, à savoir, la limite de la pensée, c'est sa bordure, en quelque sorte, c'est-à-dire c'est le bout de la pensée. Et à plusieurs reprises, dans ses carnets, Paul Chamberlain a dit que pour lui, son travail d'écrivain dans la prose, c'est son écriture, on pourrait dire d'essayiste, mais je crois que ce terme-là ne lui convient pas tout à fait, parce qu'il ne veut pas démontrer quelque chose dans ces écrits-là. Je pense bien sûr au géogramme, je pense à l'ensemble de ses carnets déambulatoires dans la ville de Montréal. Je pense aussi bien sûr à Politique de la douleur, ou qui se rapproche plus de l'essai en tant que tel. Il a dit donc et répété que pour lui, la poésie est, disons, le carnet ou la prose d'essai, si on va jusque-là, procède d'un même et unique foyer principal. C'est-à-dire que s'il est dans le poème, la prose arrive peut-être et peut l'amener à déroger de l'activité poétique pour se déplacer, et inversement, s'il est dans la prose, le poème est là. Alors, j'ai voulu tenir compte de ça avec vous ce soir, parce que ne pas en tenir compte m'aurait contraint, nous aurait contraint, puis Paul en était bien d'accord quand on a discuté, nous aurait contraint à une attention au dernier recueil, donc comme une seule chair, comme si ce recueil n'avait pas déjà son arrière-plan, excusez-moi de le faire comme ça, dans Cœur Creuset. Il se trouve bien sûr que Cœur Creuset nous a été donné à lire avant comme une seule chair, mais ils sont, comme tout le reste dans son œuvre, indissociables. Alors donc, je vais les mettre un peu en écho et lui poser quelques questions pour qu'on puisse développer notre entretien, pas seulement à partir du dernier recueil, mais à partir donc de ces fragments qui sont parfois, revenons sur l'expression, à la limite du poème. On ne sait plus d'ailleurs où se trouve cette limite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de représentation spatiale de ça qui soit satisfaisante. Il n'y a pas comme un cœur poétique et une périphérie prosaïque, il n'y a pas non plus un englobement poétique et un noyau qui serait la pensée. Vous connaissez tous les textes très nombreux et absolument insurmontables que le philosophe Martin Heidegger a consacré à cette question dans son propre dialogue avec les poètes, lui-même n'étant pas poète par ailleurs. Alors, pour aller juste un peu plus loin, avant de commencer à m'adresser à lui, je voudrais noter aussi, une fois que j'ai mis ces deux livres devant moi, en fait ces trois livres, mais surtout les deux derniers, j'ai noté, je vais y revenir abondamment si le temps nous le permet, et j'espère que Paul va vouloir nous en parler, j'ai noté dans le dernier recueil quelque chose de tout à fait singulier dans la forme de l'écriture. Et je le dis tout de suite, ce que j'ai noté, peut-être vous l'avez remarqué vous-même si vous l'avez lu, c'est la récurrence très forte de l'injonction. Et l'injonction, c'est une injonction qui est adressée à soi-même. Retourne-toi, écoute, tends ton esprit vers, etc. Alors, je crois qu'il y a pratiquement pas un poème dans ce recueil qui ne soit aimanté de l'intérieur par cette voix qui se retourne vers le poète, mais qui évidemment a un effet pragmatique d'écriture chez le lecteur, puisque le lecteur ne peut pas ne pas l'entendre pour lui-même. C'est une pratique, bien sûr, qui est caractéristique de l'écriture spirituelle des mystiques. On la voit chez Ignace de Loyola, on la trouve déjà chez des auteurs bien avant Saint-Ignace. Ce sont des textes, en d'autres mots, où il y a cette idée donc de se prescrire à soi-même et donc à l'autre qui va nous lire la bonne posture, c'est-à-dire le bien vivre. Et donc le poète ici entreprend un travail, une discipline de soi-même, par soi-même, pour lui-même. Et je crois qu'il faut absolument voir que ici, le carnet et le recueil, les fragments et le recueil, ont en partage, pratiquent cette communauté de l'injonction à soi-même, dont le but est évidemment de d'ébranler les certitudes et de conduire à une sensibilité, je dirais, plus haute, à la vulnérabilité. Alors je me tourne vers toi, Paul, et puisqu'il le faut bien, mais tu peux pas y échapper. C'est pas simple. J'aimerais t'entendre un peu, peut-être, sur ce que tu dis. Tu le dis d'abord dans La poésie comme expérience. Très très bien. Je vous renvoie à ce texte parce que c'est un texte où on entend un poète qui, c'est assez rare, décrit sa pratique d'écriture. Comment ça se passe? Et puis, dans Cœur creuset, il y a beaucoup de fragments sur ça. Alors, je donne juste un exemple. À un moment donné, tu écris. Pourquoi est-ce que j'écrirais autre chose que le poème, puisque dans le poème, tout est dit? En d'autres mots, pourquoi une autre écriture? Alors, ma première question, ce serait celle-là. Est-ce qu'il y a du deux? Est-ce que c'est juste un effet de surface? Est-ce qu'il faut les deux? Est-ce que c'est l'un dans l'autre?
Avant de répondre à ta question, puisque je reprends certains propos que. Au tout début, je pensais, je connaissais vraiment le début, mais c'est un passage qui m'a toujours beaucoup ému, de Hölderlin, depuis que nous sommes un entretien. Et je pensais aussi, pour ceux qui les connaissent, vous savez à quel point ça peut être fondamental, les premiers jeunes romantiques allemands du groupe d'Iéna, qui ont créé l'expression de Saint-poésie, Saint-S-S-Y-M, Saint-poésie, Saint-philosophie. Je dis ça parce qu'avec Georges, comme avec beaucoup d'autres, dont notamment un certain nombre ici, pour moi, ce qu'on peut appeler l'entretien, quasiment l'entretien perpétuel et interminable, parler en termes de Blanchot, est fondamental. Je peux dire, pour revenir à toi, Georges, que autant ta pensée disons dans son expression, que dans ta très généreuse attitude de lecteur par rapport à moi, que en retour ça a des répercussions importantes, c'est-à-dire que c'est un mouvement. C'est pour ça que j'ai fait allusion un peu à ces romantiques, jeunes romantiques, puis aussi à le dernier. Alors, je tenais à dire ça en premier lieu. Parce que donc le mot entretien peut à ce moment-là devenir très fort. Et il est, on pourrait quasiment dire qu'il est à lui seul une sorte de genre littéraire, enfin, ou même un genre de la pensée, en définitive. Alors, reformule la question, pour que je suis en train de perdre le fil. Je suis un peu de l'idée, c'est le 2 plutôt que le 1 ou le 1
Voilà,
plutôt que le 2.
le récit et le poème,
Oui.
le fragment de prose et le poème.
En fait, je pour essayer de situer un petit peu les choses, là où c'est devenu très aigu pour moi, on dirait que ça part ou ça vient, je sais pas. C'est au moment où j'ai créé une politique de la douleur. Est-ce que tu as cité est en écho à ça? Bon, j'avais comme il est là, je peux rappeler la chose, je pense à Pierre qui dirige la collection, Pierre Ouellet, le soir et l'autre, il m'avait proposé. Et là, j'ai dit oui, et j'ai commencé. Et là, évidemment, ça prenait du temps. Alors, Pierre revenait à la charge. Quand est-ce qu'on va avoir le manuscrit? Il y a eu un moment où, bon, ayant déblayé un petit peu de ce qui serait le propos du livre, j'ai subi une interruption, enfin au moins une. En tout cas, il y a eu un moment d'interruption. Et dans le... C'est un peu comme une sorte de... Comme si c'était creusé un espace. L'image qui me vient, c'est un hiatus. Et j'ai écrit le précédent recueil, là, « Au seuil d'une autre terre ». Donc, c'est pour situer un petit peu. Ça part... Bon, ce que j'écris, que ce soit dans « Politique de la douleur » ou encore dans... et c'est plus net encore depuis, mettons, une dizaine d'années. Parce qu'il y a eu une période auparavant, je ne veux pas m'attarder là-dessus, la période, je me souviens toujours, il y avait eu un colloque sur la mort du genre, où on était dans l'hybridation la plus débridée, excusez mon calembour, mais bon, j'ai pas de regrets, c'est une, comme telle, mais c'était une période, je pense que ça a été fécond, d'ailleurs, je dis pour moi comme pour d'autres. Cela dit, les choses sont devenues comme plus, peut-être une sorte de sentiment d'urgence, parce qu'il y avait quelque chose de ludique, ce qui n'est pas un défaut, quand même, mais bon, quelque chose, tu parlais d'injonction tantôt, une véritable injonction, et j'ai, disons, depuis une dizaine d'années, depuis ces livres, depuis ces trois recueils de poèmes comme « Une politique de la douleur », mettons, j'ai été pris dans cette oscillation, parce qu'il s'agit d'une véritable oscillation qui part en quelque sorte, mais on pourrait dire, ou alors peut-être l'image qui pourrait convenir, ce serait celle de l'ellipse en géométrie avec ses deux foyers, mais si on veut fixer un petit peu les choses. Mais toujours est-il que, comme tu faisais remarquer, les images topographiques ou spatiales sont plus ou moins satisfaisantes, parce que c'est quand même... un mouvement qui est plus dans le temps. C'est des phénomènes plus de l'ordre du temps. Ce que je voudrais dire, c'est, mettons, pour simplifier, c'est une simplification, mais pour placer un petit peu la réponse à ta question, c'est que, pour ces derniers livres, en tout cas, mettons qu'au fond, je pars des mêmes visions, des mêmes affects, des mêmes questions, des mêmes urgences, de ce que je trouve absolument, je dirais, impérieux de dire, mais dans le sens de dire en réponse à une question. À ce moment-là, tout ça ne tranche pas comme tel entre, mettons, la prose d'essai et la poésie, ou des formes intermédiaires. Dans le cas d'un carnet, l'avantage d'un carnet, c'est que là, on peut se promener un peu plus. Il y a même des poèmes dans ce cadre. Mais ce que je dirais, c'est que, et ça revient un peu, à un moment donné, ce sentiment de pourquoi essayer à tout prix de faire, bon, je pense à une politique de la douleur quand même, de faire tout un essai, alors que le poème, à mon sentiment, bien sûr, a tout dit. C'est vrai et c'est faux. En fait, ce que je dirais, c'est que le poème, et c'est l'idée de la limite, pour moi, en tout cas, mais je pense pas être le seul dans le même cas, un peu, pour avoir bavardé avec de mes collègues poètes, hommes ou femmes, dans des termes qui sont pas forcément ceux-là, mais qui reviennent à cette question, appelons ça d'urgence, si on veut, intérieure ou par rapport à une situation, c'est comme si la poésie, le poème, parce que je vais être plus précis, tel poème à chaque fois, parvenait à cristalliser le chiffre même de l'essentiel qu'on veut cerner quand on pense, quand on parle, quand on dit. Par contre, L'essai, pour moi, je pense que pour d'autres, il peut y avoir quelque chose d'analogue dans une pratique de la poésie du roman, enfin du narratif. Mais là, je ne vais pas m'avancer parce que je ne me suis pas vraiment, sauf un petit peu le récit, mais bon, c'est pas la fiction romanesque. C'est que on pourrait dire que, surtout si on tient compte, c'est toujours important d'en tenir compte, que le poème, pour nous, en général, c'est le poème bref. C'est important, je veux pas, disons, aller plus loin dans cette direction-là, cette question poème long, poème bref. Mais en tant que bref, c'est-à-dire une page ou deux, il peut y avoir un cycle par ailleurs. Ça, c'est une autre paire de manches, mais l'unité, une espèce d'unité où on est, par le bref, à la fois au premier vers ou à la première phrase, ça peut être en prose, bien sûr, et au dernier. Il y a donc une sorte de... C'est comme si la pensée était immédiatement poussée, si je puis dire, à ce qui est le plus pressant et qu'elle s'éprouve au fur et à mesure, soit des phrases, soit des vers, ou les deux. Et on a le sentiment, à tort ou à raison, parce que ça reste à voir, évidemment, c'est pas... le fait qu'on ait le sentiment, au moment où on écrit, ça compte quand même, que tout est dit à ce moment-là. Mais c'est dit, on pourrait en gros considérer que c'est dit d'une certaine façon par énigme, pas toujours par énigme, mais par énigme ou par un raccourci. C'est un peu pour reprendre les vieux termes, c'est comme si un poème était forcément formé d'antimèmes, c'est-à-dire de raisonnements qui sont, en tant qu'ils sont explicites, qui sont incomplets. On n'a pas toute la prémisse. Alors que dans la prose, et c'est pour ça qu'en définitive, sans quoi j'en écrirais pas, est possible ce que le poème, lui, ne peut pas faire, c'est-à-dire un mouvement d'auto-réflexion. Où la pensée, bon, mettons, je pose, c'est pas exactement comme ça, mais encore là, mettons que je pose ceci, mais dans le cas de, si je mets en regard une politique de la douleur, puis au seuil d'une autre terre, c'était quand même assez net, c'est comme si, bon, le poème va au bout, à la limite, mais il ouvre un espace pour la pensée. Bon, ça peut donner lieu à toutes sortes de modalités, que ce soit pour l'auteur lui-même ou pour le lecteur, d'un retentissement, donc quelque chose qui finalement est aussi une réflexion. Et le poème a permis, dans l'essai, de pouvoir, en quelque sorte, faire les liens, articuler, passer d'une manière plus explicite ou expresse, dans les mots même, en quelque sorte, sur les liens ou les articulations qui, en un sens, sont comme bousculées, sinon supprimées dans le poème. Et je me dis que on pourrait prendre beaucoup d'exemples, j'imagine, mais là, ce serait très long parce qu'il faudrait comme faire toutes sortes de considérations, mais là, il me vient à l'esprit qu'il y a eu énormément de... Parce que tu parlais de l'époque de parti pris, il y a eu énormément de pensées, d'écritures, de tous ordres, autour, par exemple, de toute cette période on appelle dit la Révolution tranquille, d'une sorte de volonté d'émancipation. Moi, je voulais prendre... mais on a, en quelques pages, celle de l'homme agonique de Miron, on a comme le noyau aussi. Et en même temps, c'est irréductible à des programmes, ce qui me paraît quand même assez important. La poésie, pour moi, fait ça. Elle peut le faire expressément dans des poèmes, mais elle peut le faire, si je peux dire, à l'improviste. Même quelqu'un qui n'est pas poète, au détour d'une page, un paragraphe, il peut avoir des éruptions poétiques aussi. Pour moi, c'est toujours assez fascinant. Je voudrais pas faire une sorte d'hypostase, mais c'est comme si il y avait toujours cette irruption possible de la poésie, même pour quelqu'un qui ne la pratique pas en définitive, à la limite. Ou en tout cas, si un poème parle à quelqu'un qui le lit, il faut bien celui qui le lit, celle qui le lit, soit dans cette disposition. Donc, le poème, souvent j'aime mieux dire le poème, ça peut être les poèmes aussi, d'une suite, comme un recueil, parce que plus ça va, plus je me méfie de parler de la poésie en général, permet, à mon avis, c'est comme si c'était ce qui ferait, en tout cas pour moi, un espace et un temps où la pensée peut s'avancer, peut-être là où elle n'aurait pas pu s'avancer. Alors, en gros, si tu veux, c'est comme ça. Bon, d'une façon, c'est sûr que depuis le début, cette époque de parti pris, il y a toujours eu cette, si on veut, ces deux modes, ces deux régimes d'écriture. Bon, tu parlais, effectivement, ayant une formation en philosophie, ayant été comme immergé dans une démarche d'argumentation, une démarche où la conceptualité est quand même au cœur. Donc, je ne pouvais pas mettre ça de côté, en quelque sorte. Alors, il y a eu des périodes où tout était, comme je le disais tantôt, entrelacé, pour le meilleur ou pour le pire, c'est une autre histoire. Mais j'ai tenu depuis, je dirais que ça a commencé depuis un livre de morale, en fait, à mieux séparer. Ça, c'est peut-être aussi une question, c'est difficile de trancher. Il y a une question, c'est que ce qu'on appelle en théorie de la réception, les horizons d'attente changent aussi selon les époques. Et c'est peut-être, entre autres choses pour ça, aussi peut-être dans la mesure où je voulais à un moment donné comme plus à l'une ou à l'autre des écritures donner un impact ou optimiser le régime d'écriture pensée. Souvent, je prends le mot en un seul, avec un trait d'union, si vous voulez, que ce soit en poésie ou en prose.
Il me semble, si je peux faire un petit écho à ce que tu dis, que d'abord, il y a une conséquence à une pratique qui est ouverte et multiple, comme la tienne, c'est que le poème est plus naturellement ou plus aisément compris et interprété dans le milieu de prose qui l'accompagne. Et ça, je crois que c'est un réflexe qu'on trouve beaucoup dans l'histoire de la poésie en général. Je risquerais ceci, je sais pas ce que tu en penses, qu'il y a plus de poètes qui ont valorisé cette relation-là qu'il y en a qui se sont protégés en étant hermétiques au point que aucune prose ne permet de saisir des référents qui sont à l'œuvre dans le poème. En te parlant, je pense à Baudelaire, dont les essais et la prose sont indispensables pour comprendre les tableaux parisiens, par exemple. Et de la même manière, enfin, je crois qu'il y en a plusieurs qu'on pourrait citer,
Mallarmé
et tout. Et par comparaison, évidemment, dans l'autre sens, il y a évidemment André Dubouchet ou des poètes qui sont cryptiques au point de départ et qui précisément n'ont pris aucun risque avec la prose, peut-être précisément pour envelopper le poème de telle manière que
on pourrait prendre l'exemple de Paul-Marie Lapointe ici.
Oui.
En somme, puisque si on prend, même si évidemment on peut se demander à un moment donné si c'est vraiment abouti, mais c'est quand même impressionnant, ce qu'il a appelé écriture, c'est énorme.
Oui.
C'est vraiment carrément une position anti-discours, une sorte comme une radicalité de la poésie pour peut-être au fond pousser le discours à ses extrêmes limites aussi.
Dans une position défensive?
Je sais pas. Parfois, on peut avoir cette impression-là. Parfois, surtout si on se rappelle le jeune Paul-Marie Lapointe, peut-être aussi par une sorte de mouvement absolument irrépressible chez lui, de provocation, évidemment, une provocation qui est tout à fait apaisée ou sereine. Je parlais de radicalité.
Oui.
Il y a aussi, on pourrait penser, tu vois, ce qui est intéressant, parce que tu parlais je pensais à un poète dont on parlait de l'obscurité, à Paul Celan, mais on a quand même, ne serait-ce qu'à l'occasion de ces...
Tu cites toi-même le Méridien.
Oui, le Méridien. On a quand même...
Une chance qu'on l'a, celui-là.
Des proses poétologiques. On a Roy-Rose aussi, qui a quand même...
Oui.
Donc, il y a... peut-être des poètes, dans le cas de Voirouge, j'ai l'impression que ce serait un cas, qui, au fond, pour l'essentiel, sauf erreur de ma part, là, s'il y a quelqu'un qui connaît bien Voirouge, qui pourrait me corriger si je dis une bêtise, mais bon, poésie, réalité, fidélité à l'éclair, c'est comme, à un moment donné, peut-être à la faveur, je sais pas, de conférences, c'est comme s'il avait, à la limite, consenti à une prose réflexive sur la poésie, mais qu'au fond, c'était les poèmes verticaux qui comptaient.
Oui.
Mais là, je pense qu'il se peut que on a affaire, il faut quand même pas le négliger, à de la singularité, je pense, selon les écrivains. Mais je crois que l'exemple que tu donnais puisque quand même pour la modernité, vaut d'une manière vraiment paradigmatique, là, c'est Baudelaire. Répercuté ensuite par Mallarmé, mais d'une autre façon. Hein, c'est pas de la même façon.
Enfin, j'en ferai pas une théorie, mais ça me frappe quand même, parce que c'est comme cheminer avec toi, c'est vraiment marcher avec deux pas, quoi. Je veux dire, il faut,
oui.
C'est un et l'autre. Et donc, évidemment, comme je le disais à l'instant, il me semble qu'il y a toujours un ajout, il y a un plus, il y a un effet de supplément, et puis il y a un effet aussi de répercussion dans le poème de cette réalité extérieure qui est là. Et donc, avec ce dernier recueil, parce que je voudrais quand même y venir, allons vers le texte. Il me semble que dans ce recueil, même si dans plusieurs des poèmes de ce recueil, il y a encore des noms propres, assez en tout cas pour qu'on sache que ton écriture demeure habitée par des références politiques. Si tu permets, je vais juste citer un passage. Il y en a plusieurs, mais c'est à la page 40. Je vais lire juste un extrait. C'est un poème qui s'ouvre sur le rire, et ce rire devient tout d'un coup un jappement. L'oreille est écorchée. Et voici ce que le poète dit. J'entends ce qu'elle dit, ta gouaille, que leur humanité ne vaut pas l'os qu'on jette aux chiens de la meute démocratique. Mais il te reste pris à travers dans ta gorge ton rire. À ton tour de les entendre, ces syllabes qui ne passent pas. Deux points. Et, le deux points est important. le deux points amène une liste. Abu Ghraib, Guantanamo, Gaza, Grozny, Ciudad Juarez, ensuite un verre, et ensuite Ziglon B. Regarde-toi faire la roue au milieu d'un charnier. Alors, donc j'aimerais qu'on parle un peu de cette singularité de ton poème, gagne au sens que Giorgio Agamben donne à ce mot, en irremplaçabilité, c'est-à-dire le fait que le poème n'illustre pas, c'est pas une généralité ou quelque chose de plus dense pour une réalité qui serait diffuse, c'est pas une référence particulière, c'est au contraire l'accomplissement d'un moment de pensée qui est douloureux dans un rapport avec donc le réel d'abord politique. Je sais que dans ce recueil, tu pourrais me dire, mais n'oublie pas ça aussi, parce que j'y ai pensé. Les lecteurs seront frappés. Il y a plusieurs poèmes qui sont presque des citations de Rilke. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de poétique mélancolique qui est là, mais pour le dire en clair, comment moi j'ai reçu ce recueil, j'ai trouvé que l'autonomie du poème dans son rapport au réel, si je compare à Rilke, est beaucoup moins grande. Le réel est invasif. On peut pas y échapper, et on pourrait même presque dire qu'une des fonctions du poème est de permettre cette invasion, cette effraction du réel. Le réel n'est pas quitté. Le poète, en fait, ne l'abandonne pas. La distance n'est pas effacée. Et donc, si le poème est une pensée dans un monde commun, ce n'est pas dans un effet de traduction du monde qui conduirait vers quelque chose de plus dense ou de plus crypté, non, pas du tout. Le rapport au monde demeure clair et, encore une fois, provoquant et sur le mode de l'injonction. En fait, pour le dire de manière tout à fait simple, il n'y a aucun lecteur de ces derniers poèmes de Paul Chamberlain qui peut se demander de quoi il parle. Parce que nous savons de quoi il parle, et si nous avons un doute à un moment donné, eh bien, quelques termes, comme ceux que je viens de citer, nous le rappellent. Alors, moi, j'aimerais te poser cette question parce que, il y a cet autre poème absolument magnifique, et je sais à quel point ça t'a bouleversé, parce que tu en as parlé pendant 6 mois, ta conversation en était envahie, c'est l'assassinat d'Anna Politkovskaya, qui donc fait retour, c'était inévitable. Elle a sa place. Le poète signe cette mort comme cela en a signé tant d'autres. Alors, j'aurais aimé ça que tu nous dises quelque chose de ce rapport donc à l'événement meurtrier presque.
Oui, ben c'est bien que tu dises ça, l'événement meurtrier. Tu vois, en mettant, c'est sous une forme zyklombée. En fait, il y a beaucoup. Ou sans doute parce que j'ai été imprégné ça depuis longtemps, puis des relectures par il, mais en fait j'ai le sentiment que du moins aujourd'hui, c'est-à-dire c'est la fameuse barre avant et après Auschwitz, et lui-même a une sorte de rapport polémique, pas explicite, mais quand même, au moins quand on le lit bien, c'est là un rapport polémique avec la poésie allemande, avec Grieg.
Avec Grieg, en
fait, c'est toute son aventure. Je veux pas. Il force la langue du bourreau à une sorte de déchiquetage qui peut permettre de dire ce que cette langue-là, dans de si beaux, au fond, de si beaux poèmes, on dit malgré tout de l'intolérable qui venait ou qui allait venir. En fait, c'est la question, tu l'as dit, la question du réel. C'est que, bon, là, comment, ça peut pas être l'objet d'une démonstration que de dire des choses comme ça, parce que c'est profondément singulier, même si je sais pertinemment que je suis pas le seul dans le même cas, bien sûr. Pas singulier dans le sens d'être complètement à part, puis que personne ne sera au courant. C'est pas du tout dans ce style-là, mais qui que nous soyons, quel que soit le nombre de notre, comment dire, cette espèce de communauté des solitaires, c'est que, étant donné ce qu'a été le 20e siècle, mettons pour dire les choses rapidement, et étant donné ce qui s'annonce comme étant le 21e siècle, en tout cas pour moi, le réel menace tout ce qu'on appelle la culture. Là, je rejoindrai un petit peu, bien sûr, la problématique d'Adorno, mais il n'est pas le seul. Donc, un poème, entre autres, ne peut pas s'écrire, c'est-à-dire que les mots ne peuvent pas passer dans une sorte de sentiment de légitimité s'ils ne sont pas confrontés à l'épreuve du réel, et d'un réel qui est, je vais représenter comme un trou noir, qui menace, en fait, non seulement le poème, mais le parler, le fait même de parler. Et c'est pour ça que quand Celan parle des dates, il a commencé par le 20 janvier 1942, pour moi, ça a été, je me souviens, ça a été vraiment quelque chose de... un bouleversement très fort. Et donc, que ce soit des dates ou que ce soit des circonstances, au fond, comme... pour moi, c'est effectivement... pardon. bien tenir compte de cette irruption du réel. Et la question de la limite pour la pensée, c'est que c'est aussi la pensée qui est poussée à sa limite par un réel qui risque de la détruire. Et donc, à cette extrémité, pour moi, seul le poème parvenait à arracher à la menace du mutisme, dans un autre contexte, on pourrait dire, du nihilisme exacerbé dans lequel on vit, à arracher quelques mots qui résistent, ou en tout cas dont on peut avoir le sentiment qui résiste ou qui suggère une... Donc, à ce moment-là, ces mots-là ne doivent pas mentir. C'est pour ça, du reste, que depuis un certain nombre d'années, là, je travaille d'une façon intensive, la question qui a fini par prendre toute l'importance au niveau de la réflexion sur la poésie, c'est cette question de la vérité. Et, est-ce qu'il y a une vérité poétique? C'est quoi ce que j'appelle le dire vrai du poème? C'est une question épineuse, parce qu'en général, à propos de poèmes, de littérature, d'art, c'est un peu un préjugé courant, enfin, la pensée est molle, de dire que ça n'a rien à voir avec la vérité, parce que ce serait de la fiction. Ce sont là des pensées que je considère comme profondément insuffisantes, mettons, mais c'est qu'il y a un dire, c'est-à-dire qu'il y a un vrai du poème, évidemment par synecdoque, ça pourrait être le littéraire, si on veut, qui est à l'épreuve de son dire singulier, et non pas, évidemment, comment je dirais, dont un poème ne viendrait pas concurrencer une démonstration rigoureuse faite par un sociologue ou que sais-je. Ça implique donc aussi, mais là je ne veux pas aller trop loin dans cette direction-là, ça implique donc même une sorte de mise en question ou de mais c'est par l'épreuve du réel, de ce qui est proposé comme vérité dans des discours qui le font de manière, disons, légitime. Par exemple, bon, ce serait comme un exemple évident, le discours scientifique, ou encore tout ce qui tourne autour de l'information, bon, etc., la factualité. Mais ce que le poème, pour moi, étant donné, ça part là, d'un réel qui subvertit, qui on n'a qu'à regarder le non-sens effrayant de toutes sortes de déclarations. Il y a des choses, à un moment donné, qui sont hallucinantes. Je n'ai pas fait, ça aurait été un long travail, une sorte de dérive du langage où les mots, les phrases, non seulement ne veulent plus rien dire, mais disent le contraire ou disent des choses qui ont l'air sensées pour accréditer soit des politiques, soit des façons de faire, disons, qui sont, elles, complètement aberrantes. Mm-hmm. On est devant ça. C'est ça que j'appelle l'irruption d'un réel pour lequel le taux, si je peux dire, c'est peut-être pas le bon mot, mais la force de destruction est très grande. En fait, c'est comme se heurter à une sorte d'exacerbation de la pulsion de mort.
Mais il y a deux vérités, si tu me permets. C'est-à-dire que on peut aller loin là-dedans,
oui,
en particulier
oui,
à partir de ton
trop.
Recueil. Oui. Non, mais je pense que tu ouvres une porte qui est très très importante. Il y a la vérité morale, c'est-à-dire que il y a la vérité du geste de celui. Il est véridique, dit autrement.
Oui.
Le témoin qui témoigne dans la vérité, c'est-à-dire il veut dire ce qu'il éprouve vraiment ou ce qu'il voit vraiment. Et l'exercice d'une responsabilité, c'est toujours l'exercice d'une vérité aussi, parce que personne ne prend une responsabilité s'il n'est pas convaincu que la cause qu'il poursuit, etc., le mérite. Puis d'autre part, évidemment, il y a la vérité du témoignage en tant que tel, c'est-à-dire son rapport au réel. Et ça m'amène à dire justement quelque chose que je voulais te demander dans ce recueil-ci, c'est que j'ai remarqué que l'intervention que tu proposes dans chacun des poèmes, c'est ça, l'acte poétique en tant que tel, est très diversifié selon les poèmes. Je vais essayer de, peut-être d'amener quelques lectures là. Bien sûr, il y a toujours l'injustice, il y a toujours la tyrannie, beaucoup plus importante, je dirais, que le désespoir amoureux qui fait retour ici et là, l'amour impossible et qui est quand même présent. Mais c'est, bon, la souffrance, disons, a toujours cette connotation politique. Mais j'ai remarqué ton effort dans plusieurs de ces poèmes pour... Et alors, quand tu les lis, tu les délis en même temps, charnier, décharge. Charniers et décharges. Charnier, bien sûr, on sait ce que c'est. On sait l'histoire des charniers, on connaît les raisons. On est devant l'innommable, bien sûr. Mais pour toi, le regard, par exemple, qu'on porte, tu as plusieurs de ces poèmes qui portent sur ceux qui sont privés de tout. Et donc, il y a une perspective, là, l'histoire vue du point de vue des vaincus et pas seulement des vainqueurs. Donc, Benjamin est derrière plusieurs de ces poèmes. Alors, donc, ça, c'est la constellation qui est dans le mot charnier. Mais, fait irruption dans plusieurs poèmes, notre malheur démocratique, si j'ose dire. C'est-à-dire que la société du pouvoir et de la consommation conduit à la décharge. Elle conduit, en d'autres mots, au rebut, à l'excès du déchet. Et donc, là, il y a une polarité qui est évidemment la polarité constitutive de toute la philosophie politique. C'est la polarité de la tyrannie et de la démocratie, la polarité, en d'autres mots, de l'excès dans le pouvoir et de l'excès dans la liberté. Et page 43, si tu permets, je vais juste lire un tout petit morceau qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup touché. Tu écris... J'écris à l'époque où la gueule d'enfer, alors la gueule avec un G majuscule, donc c'est un appareil, exhumée de la tourbe des frayeurs ancestrales, s'apprête à engloutir tout écrit, y compris celui-ci. Mais ça, tu viens de le dire dans la référence à Adorno. À l'époque où le carnassier impérial se pourlèche les babines, croc pointé depuis ses maisons blanches ou ses Kremlins, à l'idée qu'il pourrait ne faire qu'une bouchée de tout ce qu'on jamais promis, l'art de la fugue, le quichotte ou la joconde. J'écris à l'époque où les relents d'entrailles de l'ogre démocratique souillent de leur pestilence l'acier pourtant intact de la protestation morale nue. Nue, car acculé au seul mot qu'il lui reste, au cri, à la plainte insoutenable du tout petit enfant terrorisé qui meurtrit, ligoté dans sa moelle, l'autiste exterminateur. Alors, on pourrait rester 3 heures là sur ce poème-là, en commençant par le dernier vers, bien sûr, puisque l'ange exterminateur se transforme en autiste exterminateur avec un A majuscule, cet enfant qui est ligoté dans sa moelle. Mais j'aimerais que tu nous dises quelque chose de ce transfert entre, je dirais, le mal tyrannique et le mal, c'est pas moi qui l'invente, que tu qualifies donc de la gueule d'enfer et de l'ogre démocratique.
Je me souviens dans ce poème-là, excusez-moi, comme peut-être dans quelques autres, certains ont aussi fait allusion, où j'approchais, comment je dirais, donc, quelque chose qui pourrait ressembler à une espèce de sentiment, pas du paradoxe, mais quasiment d'une sorte d'aporie, de contradiction, donc qui pouvait aussi m'inquiéter, me causer de la perplexité, ou une sorte de désagrément. Parce que, l'ogre démocratique, on pourrait dire, si on tient compte d'un certain contexte, que c'est un oxymore. il y a des ogres non démocratiques qui sont, en quelque sorte, ils sont là, on les voit, il n'y a pas... En fait, c'est la question, je parlais du réel, c'est au fond, c'est la question... là, c'est une dimension politique, bien évidemment, liée à... mettons, on pourrait dire, parce que ça m'habitait au moment où j'écrivais ça, la croisade des bons et des héros proclamés par quelqu'un comme Bush. Donc, l'oxymore, c'est pas moi qui l'invente. Il est là. C'est-à-dire, ce qui est terrible, c'est que la croisade démocratique devient, on pourrait aller du côté de Derrida avec les maladies auto-immunes, il a réfléchi là-dessus, la maladie de l'intérieur même, et c'est très important, il faut pas oublier un peu, pour se défendre, la démocratie peut aller elle-même jusqu'à aller contre ses principes de base, ce qui est quand même... alors c'est ça le nœud, en quelque sorte. Et j'avais... c'est drôle parce que dans le texte qui précède celui que tu cites, c'est très curieux comment ça m'est venu. C'est venu très vite. C'est un petit peu comme la généalogie de ça. Peut-être que je peux le lire.
Oui, le don.
Parce que, bon, comme je vous le disais tantôt, j'ai parlé dans les termes de la vieille logique traditionnelle d'antimème, c'est-à-dire au fond l'ellipse, les raccourcis, on fait sauter les transitions, le poème fait ça. C'est comme une histoire, ça serait comme le résumé de tout de deux millénaires au moins, mais enfin, en tout cas. C'est un peu, dans un sens, si vous voulez, c'est sommaire, mais c'est à propos de cet enjeu-là. Alors, je le lis. Dresser contre l'azur une tête de roi, nimbée, fascine. Mais qui succombe à l'adoration ne sait pas qu'il abdique. Quelle est cette tête et ce nimbe et le saphir du fond sans fond? L'iconostase est jetée bas, l'idole de crin est déchiquetée, la horde des émancipés titube dans sa neuve ébriété, croyant détenir la chose. Ça ici, il faut bien que je dise que c'est la res et donc la res publica. J'ai mis une majuscule à chaud. Croyant détenir la chose, ils se jettent les uns contre les autres et se l'arrachent. À la fin mutilé, ils rentrent vers les bottes du plus fort, l'élu. L'éclat coupant d'un astre noir ferme le ciel. C'est sûr que ça peut pas tenir lieu d'une théorie ou d'une réflexion politique. Je l'admets, c'est la fameuse question. Mais pour moi, c'est comme ça qu'est apparu. Bon, il y a des motifs qui sont à l'arrière-plan. On pourrait quasiment revenir justement à la République de Platon sur cette question qui, pour moi, demeure toujours une source de grande perplexité. Est-ce que la démocratie finit par conduire à la tyrannie? Cette question, on pourrait revenir à des contradictions de Tocqueville, entre autres. Mais là, ça nous amènerait justement du côté de l'essai. Mais c'est... en fait, je dirais, en un sens, injonction. En un sens, je pourrais... Mettons, si on prend le mouvement des Lumières, de l'Aufklärung, de l'Enlightenment, pour parler des différents lieux, hein, Allemagne, France, Grande-Bretagne, c'est comme un dépit amoureux de quelqu'un qui a cru... Mettons, je mettrais les choses comme ça, à ces valeurs fondatrices de la modernité, en voyant qu'elles sont complètement, dans une sorte de novlangue, retournées contre elles-mêmes, par ceux qui prétendent les représenter. Au fond, c'est ce scandale, au sens fort, cette pierre d'achoppement, qui est à la source du sens. Mais, je suis très conscient, et là, encore là, on peut dire que si le poème fait quelque chose, il peut peut-être tout simplement être un moment qui facilite ou qui relance la pensée et qui, bien sûr, parce qu'on autrement on sombrerait dans une sorte de culte du poème absolu, ce qui, pour moi, bon, c'est une autre histoire, mais qui est intenable. Donc, qui peut comme relancer, la mienne en tout cas, sinon quelques lecteurs, la pensée face à ces apories ces scandales, ces détournements, face aussi, je l'ai fait allusion tantôt, aux novlangues démocratiques.
J'aimerais, parce que le temps quand même s'écoule, qu'on on laisse pas de côté l'aspect pratique spirituelle, à laquelle j'accorde personnellement beaucoup d'importance, peut-être trop. Je sais bien que cette injonction dont j'ai parlé au début n'est pas une injonction augustinienne, c'est-à-dire que ce n'est pas pour retrouver à l'intérieur de toi le Dieu qui aurait quitté en quelque sorte ton monde, mais la forme est augustinienne. La forme est augustinienne, c'est-à-dire la forme est vraiment le parler à soi-même. Et donc, peux-tu nous en dire quelque chose? C'est-à-dire que c'est quand même frappant, c'est du début à la fin, cette reprise incessante de prescriptions, dès le premier poème, hein, tu n'oublies pas, etc., tu n'oublies pas, tu retends l'attention, tu n'as pas, avise-toi que tu tiens, tu n'as pas, avise-toi que tu tiens, tu n'as pas, avise-toi que tu tiens. À quoi? Au tuf, au têtu terreux, sois l'indéracinable, sois l'indéracinable. Un autre poème, tu l'as longtemps rêvé, prends-la dans ta paume, elle pèse à peine une bulle, la terre. Qu'est-ce que c'est beau, ça, hein? C'est presque tous. Alors, c'est pas ça que je qualifierais de moment rilkéen, c'est plutôt que il me semble en tout cas que certaines de ces injonctions commandent toutes les autres. Je t'en cite une. Soit, te dis-tu à toi-même, soit ce tout nu sans argument.
Oui. Oui, ben en fait, comment dire, ça aussi, c'est, il y a une trame qui traverse ce recueil, et ça pouvait pas ne pas l'être, étant donné le fait d'être comme poussé à la limite, aux confins de ce réel qui devient un réel, cette gueule, ce dévorateur, etc. Et donc surgit la question. Comme je l'expliquais tantôt, de comment faire que ce qui est dit dans son dire écarte la forme négative contre tout ce qui pourrait donner lieu à des soit des complaisances, soit des le mot complaisance compte beaucoup, si le premier poème au fond le laisse entendre. Des sortes de un certain flou, si on veut, ou ça pourrait être aussi, il y a un autre poème qui le dit, le sujet qui s'insurge, qui est à la recherche d'une morale radicale. Une des pires illusions, c'est celle de la belle âme. Et c'est pour ça que je disais à un moment donné qu'on mette entre les mains de la belle âme la philosophie dans le boudoir. Donc, encore là, on pourrait aussi, je pense, parler d'un oxymore assez évident, qui est pas parfait, qui est pas tout à fait ce qu'il y a de plus raffiné, mais disons que c'est la colère là, qui fait parler. Donc, il y a cette injonction, mais... Toi qui, mettons, je veux mettre ça dans des termes aussi, toi qui est scandalisé, indigné, et Dieu sait si je me suis méfié de ce que peut être, je parlais de compétence, le fait à un moment donné de se sentir vraiment légitimé dans son indignation, vous voyez?
Tu l'as dit, tu t'en es sauvé.
Non, mais c'est qu'il y a là un piège. Tu sais, c'est... Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui vient permettre une sorte d'épreuve, c'est-à-dire pour que le dire ne succombe pas à des illusions, à des erreurs, à des mensonges, à des complaisances. Et c'est là qu'il y a un franchissement quelque part qui s'annonce Parce que ce que je trouve terrible, c'est que c'est comme si l'humain était confronté à l'inhumain sous toutes les formes possibles. Parce que le non-humain devient même plus quelque chose qui serait le mal, disons. Quelque chose. Est-ce que je dois vous dire, mettons, c'est une façon peut-être de, par allusion, de voir un petit peu le train de pensée, parce que ça m'a beaucoup occupé. Un des ouvrages pour moi les plus forts pour relancer la pensée là-dessus, c'est Le malaise dans la culture de Freud, où il pose des questions essentielles. D'autres les ont repris. Je pourrais, par exemple, la pensée de René Major aussi, ou d'autres. Bon, c'est que toi qui es, tu sais, à un moment donné, pour la justice, est-ce que, par en arrière, c'est un peu... C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des espèces de poèmes loufoques dans la dernière partie.
Alors, j'aimerais qu'on en parle de ceux-là, parce que
oui.
Il n'y a pas seulement des poèmes loufoques, mais tu citais Paul-Marie Lapointe. Toi aussi, ton écriture est touchée par le réflexe de Paul-Marie Lapointe aussi. C'est-à-dire que certains de ses poèmes, tout d'un coup, tu décides de brouiller même la graphie. Tu viens pour dire tragédie, tu dis tragout. Tous les mots qui commencent par S, tu répètes le mot S 10 fois.
Oui, oui.
Je pourrais même pas les mettre dans ma bouche tellement c'est difficile. Ça, c'est peut-être lié à ce qu'on vient de dire, justement, c'est-à-dire que c'est effet immunitaire contre l'auto-justification de la révolte.
C'est-à-dire, oui, et c'est l'épreuve...
Un effet de dérision.
C'est comme si... je faisais face à un échec même du fait de penser et de signifier. Et en fait, celui qu'on pourrait nommer ici, en tout cas qui compte beaucoup pour moi, c'est Gauvreau.
Ah oui, évidemment.
Mais il y a aussi, ce serait une autre histoire, il y a Artaud également, pour d'autres raisons, mais je ne veux pas confondre l'exploréen avec les glossolalies d'Artaud.
Mais Artaud est très présent dans Cœur creusé.
Oui. Mais c'est qu'à ce moment-là, il y a une fission... Pour moi, toi, c'est l'image du langage face toujours au réel, face à même le doute qu'on puisse même pouvoir tenir une position morale, celle du juste, parce que comment si je puis dire en approcher la vérité et donc le dire vrai, l'épreuve, c'est-à-dire si on fait l'économie de ce que j'appelle l'épreuve du réel. Or, l'épreuve du réel me ramène... Bon, c'est sûr que là, je pense que il y aurait peut-être une relecture de Gauvreau, mais c'est sûr qu'il y a aussi ce que Celan, la poésie de Celan a pu jouer, c'est-à-dire les syllabes douleurs du reste ces noms. C'est-à-dire qu'à un moment, l'épreuve du réel fissure le langage, le rend... comme impropre ou je pense que je pourrais dire même tout simplement impropre, le rend il est mis en échec et c'est le cri qui reste, le cri de la vie nue en quelque sorte, pour précisément c'est sûr qu'il peut y avoir, tu parlais, c'est drôle, j'avais jamais pensé à la démarche augustinienne, mais en tout cas c'est intéressant, c'est que l'injonction évidemment devient à un moment donné quasiment comme si j'étais saisi à la gorge et qu'il n'y avait plus rien qui passait que des mots déformés.
Ah oui.
Au fond des cris, parce que c'est...
Tu veux peut-être nous en lire un comme ça?
Oui, peut-être. Je dois dire par contre, mais ça c'est une toute autre affaire, mais aller trouver là aussi des ressources dont on tient plus ou moins compte en général, mais il y a aussi l'épreuve de la lecture de poèmes, de dire des poèmes, et en particulier, je pense, entre autres, le travail avec José Aclin, qui est présent, avec d'autres, avec des musiciens, qui, pour moi, a été essentiel aussi. Et on sait que Gauvreau, on a, par exemple, La nuit de la poésie, le film de la Breque et puis aussi ce fameux film dont j'ai oublié les cinéastes qui sont partis des roches La nuit de la poésie, ces deux jeunes cinéastes, peut-être qu'il y en a qui on voit beaucoup Gauvreau. À quel point Gauvreau répétait, moi je l'ai vu en la nuit de poésie 70, répéter ses poèmes. Les gens vont dire c'est du n'importe quoi, c'est des affaires de garrochées. C'est tout le contraire, l'exploréenne Gauvreau. C'est une espèce d'articulation paradoxale de ce qui va au-delà de l'articulation, du langage articulé du discours. Alors, je vais lire, oui. Donc, ça a joué. Il y a aussi une chose qui est assez... c'est comme si je passais... je pourrais en parler avec Pierre Ouellet. C'est comme s'il y avait une voie vers une poésie chamanique aussi, en tout cas. Je vais prendre celui-ci. Et puis il y a des choses étranges parce que tu parlais tantôt de ce début tragodie, tragout, et je me suis rendu compte en consultant le dictionnaire grec que j'étais allé d'une manière subliminale presque au radical grec vers l'étymologie. C'est quand même fabuleux parce que le bouc,
oui,
parce que c'est sûr que je dis subliminal, c'est des imprégnations qui remontent à loin, sans doute là, c'est pas l'irruption du Saint-Esprit, si je peux dire, par une vieille métaphore. Mais quand même, Breton a parlé un peu de ces irruptions-là dans l'écriture automatique. Quoi. Alors, c'est comme si, au fond, d'un moment donné, d'aller du côté du signifiant en tant que ce qui résiste face au fait d'être acculé au cri, ce serait comme un dernier recours pour relancer le parler et le dire. Et moi, je comprends la poésie de Gauvreau comme ça aussi. C'est une sorte de... Il y a à la fois l'irruption du désir, de la passion, mais je crois qu'il y a aussi un grand désespoir sur... vous connaissez, ceux qui connaissent Gauvreau, toute sa démarche radicale, intransigeante, on le voit dans ses pièces, face au mensonge social et, bon, etc. Bon, je vais lire celui-là. Tu dis, c'est vraiment sur scène que ça m'est venu. S'rouvre, en pleine chair, accuse le coup. La trouée, la plaie, l'hémorragie nous éclabousse, tous. Nous tanguons tous et pas d'issue. S'rouvre en pleine chair, à vif à cran, débridé de partout, la blessure humanité. Puis le suivant, vous voyez les sifflantes, évidemment, j'insiste pas, une fois qu'elles ont fissuré le début, elles ont traversé tout le reste, et puis celui qui suit est à peu près de la même venue, ce serait comme une autre sorte, strideur, ça lacère là, sous le derme, dans le noué viscéral, souffle coupé. Alors, pour moi, ce sont une énonciation poétique qui vient vraiment comme étant le fait de s'arracher au cri. Puis on pourrait dire qu'aujourd'hui, selon des... ça peut être inégal, bien sûr, mais il y a des jeunes poètes, filles ou garçons, jeunes femmes ou jeunes hommes, qui sont en plein là-dedans aussi. Hein, c'est... Puis je pense qu'il faut apporter beaucoup d'attention à cette... je pense que c'est, du moins par le fond, je pense que ça correspond à un certain état de l'époque, un certain esprit.
Permettrais-tu que je te pose une dernière question avant qu'on donne la parole à nos amis? Le titre... j'ai regardé ma concordance biblique parce que je l'avais reconnu, bien sûr, mais j'étais loin de me douter que il y a plusieurs occurrences à Matthieu, Saint-Marc, mais en fait il y a deux occurrences très importantes qui forment un arc dans toute la Bible. Comme une seule chair, c'est d'abord un verset de la Genèse. C'est Adam et Ève, bien sûr. Et puis, c'est un verset très important de la doctrine morale de Saint Paul dans la deuxième épître aux Éphésiens. Ça fait savant comme ça de dire ça, mais c'est juste que je l'ai vérifié. Je sais que dans plusieurs des poèmes, là, tu viens de le lire d'ailleurs, la chair est touchée, elle est, etc. Alors, qu'est-ce que c'est une seule chair?
J'avais écrit, j'essaie de me rappeler, dans le premier, c'est-à-dire pour moi, ces trois recueils se tiennent. Le premier, Intime faiblesse des mortels, c'est le dernier poème, là, je vais pas faire de bêtises.
À
un moment donné, ce frémissement muet venu de partout comme une seule chair, comme d'une seule chair, c'est la terre des mortels. Donc, je dis ça d'abord parce que, pour moi, comme une seule chair, c'est la répercussion du dernier poème de Intime faiblesse des mortels.
Et donc, la commune humanité, en quelque sorte.
Ben, il y avait aussi, il y a un jeu de mots dans le titre. Si vous prenez comme et une et vous le mettez ensemble, vous avez le mot commune. Donc, il y a la tension entre le commun et le seul. Pour moi, c'est important. Je parlais de la communauté des solitaires tantôt. Ça m'a motivé beaucoup pour retenir ce titre-là. C'est comme si, évidemment, ça serait une syntaxe assez transgressive. Commune, seule, chair. Ça fait comme une espèce d'agrégat, là. Le français n'a pas ça, là, cette façon de dire les choses, de les agglomérer. Mais en fait, ça serait quasiment comme un germanisme, peut-être. Mais en fait, je dis ça en blague, là. Mais il y avait ça. C'est-à-dire, au fond, pour moi, le sentiment de la précarité, en fait, on peut rejoindre aussi, c'est sûr que c'est présent... Tout ce qu'Agamben a pensé autour de la vie nue, le sacré, hein, qui est aussi être voué à tous les périls, à ne plus avoir aucun droit, à être à la fois, d'une certaine façon, comme mis à part, mais en même temps, et simultanément, être traité comme le dernier des déchets. Hein, pour moi, ça va beaucoup marquer la pensée d'Agamben, c'est là aussi. Et il y a peut-être aussi l'incarnation. C'est sûr que là, que ce soit la Genèse ou la deuxième aux Corinthiens, je peux pas dénier que à l'âge que j'ai, avec la formation que j'ai eue, que disons les choses comme ça, l'intertexte biblique, Ancien et Nouveau Testament, évidemment, c'est absolument indélébile.
Je veux lire, en terminant, avant de vous donner la parole, un petit vers qui, moi, m'a hameçonné, connaissant Paul. Et c'est un aspect de Paul que plusieurs d'entre vous connaissent, qui est très important. C'est Paul en chemin vers le Bodhisattva, si ça vous dit quelque chose. Paul bouddhiste. Alors... Là, il y a un vers qui est une confession terrible. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Excuse-moi, Paul, je te donnerai même pas l'occasion de commenter ça. C'est au début de ta quatrième section, à la page 37. Tu dis, tu te rappelles ce pieux récit du délabré rentré chez lui après bien des années pour y mendier incognito sous l'escalier de sa maison. Connaissez ce récit? Eh bien, qu'est-ce que Paul va nous en dire? L'éveil, qu'est-ce que tu avais imaginé? Fais donc avec tes vieux bobos, franchir requiert un solide appui. Alors, je te demande pas de nous dire où tu en es avec le bouddhisme, mais là, on a un clin d'œil.
Je veux simplement juste dire... M'en veux-tu? Le dernier poème, « La marche vers l'éveil n'est pas d'abord un aller simple pour l'extase, mais un tourniquet de gifle.
» Celui-là aussi. Voilà, alors merci Paul de ta générosité. Merci. On a un peu de temps parce que vous êtes là et puis vous voulez peut-être intervenir, juste entrer dans la conversation avec Paul, il est surdisposé à ça. Ça nous ferait plaisir de vous entendre, si vous en avez envie. Oui?
Vos propos m'interpellent à maintes égards, parce que moi j'ai vécu au Portugal dans le fascisme de Salazar, et y a un grand poète portugais, José Afonso, que j'ai le plaisir de chanter et de travailler en même temps. Et quand vous parlez du poème à la limite de la pensée, moi je pense que je pourrais le dire, je le vois, parce que moi-même j'ai fait de la prison pendant le régime de Salazar, le régime donc fasciste. Il y avait une police politique redoutable qui allait justement scruter comme que les pensées. Et justement, l'une des facettes de cette police, c'était justement de nous placer en position de faire de la poésie. Et José Afonso, justement, a composé la plupart de ses poèmes en prison. Et je dirais un peu que, en fait, lorsque vous parlez de la poésie comme expression de la pensée, moi je dirais que voilà, l'une des marques déterminantes de la poésie, c'est justement d'aller franchir tous les limites. Il n'y en a plus de limites, en fait. Et José Afonso a un magnifique poème justement sur la mer, parce que Camões, le grand poète portugais de la Renaissance, disait que le Portugal, c'est la fin, c'est où la fin de la terre et où commence la mer. Et justement, dans ce poème sur la mer, c'est un peu comme si il vous avait écouté. Il dit exactement que la poésie, c'est vraiment l'autre lieu inconnu. Et cet inconnu est justement le lieu même de la pensée. Et c'est ce qui m'a frappé particulièrement dans vos propos. Moi, je dirais aussi, pour aller un peu dans le sens de Martin Heidegger, avec l'être et le temps, ou avec une pensée qui mène nulle part. En fait, c'est ça. En fait, la poésie, c'est ce nulle part, et mais partout, en même temps.
C'est le méridien de Ceylan, du reste. Un cercle qui fait le tour, et qui, dans le fond, est nulle part, mais qui revient à son site natal, mais qui est dans la... C'est-à-dire que c'est un paradoxal retour, parce qu'il n'est nulle part. Il n'est surtout pas territorialisé. C'est le contraire d'une sorte d'assurance identitaire. Mais il faudrait que je connais pas ce poète-là. Mais ça m'a fait penser une chose... Vous parlez de... Vous-même, vous avez été en prison sous Salazar. Dans... Je ne sais plus... Paul, tu me corriges parce que tu connais bien. Ou, je ne sais plus si c'est dans Fidélité à l'éclair ou dans la Poésie et réalité, mais Juarros raconte... bon, il est argentin, ce poète-là. Et il raconte que, sans préciser où, mais dans une de ces dictatures latino-américaines, c'est un peu le... Comment dire, l'expression... un petit peu évasé, mais quand même assez précis, que, sans le nommer lui non plus, il y avait un poète qui était là, enfermé, déjà depuis plusieurs années, que le directeur fait venir, et il lui dit, t'es libre, mais à une condition, que tu signes cette déclaration. Et la déclaration, c'était, je ne suis plus poète. Alors, ça illustre très bien ce dont vous parlez, ce que vous dites. Oui. Et c'est intéressant parce que on se demande, surtout de notre point de vue, dans nos sociétés de consommation, avec sa tradition libérale, et aussi à tous les mensonges, à un moment donné qu'elle peut autoriser, on pourrait dire pour ceux qui prennent des libertés avec cette tradition-là, que nous, on peut écrire n'importe quoi, ou à peu près, Et que dans des dictatures, que ce soit de gauche ou de droite, on peut penser à, évidemment à l'Union soviétique, on peut se demander pourquoi un poète peut inquiéter tant que ça le régime en place. Bon, il y a plusieurs réponses possibles.
Mandelstam.
Bon, oui, Mandelstam, oui, c'est... Mon hypothèse, c'est qu'ici, on fait tellement de bruit qu'on n'a plus, c'est plus nécessaire. Personne n'entendra le poète parce que de toute façon, c'est tonitruant au dernier degré. J'avais fait ce jeu de mots un peu lourd. Tony et truand sont là pour, pour veiller au grain.
Quelqu'un d'autre aimerait intervenir? Non? Bon, ben alors il me reste à remercier Paul. Paul est là si vous voulez lui parler ou faire signer des exemplaires.
Oui, puis je voudrais aussi remercier beaucoup Georges pour...
pas trop.
Ben non, écoute, pour la lecture très élaborée et qui m'a poussé. C'est un sujet comme qui m'a vraiment à des questions essentielles.
Voilà, merci beaucoup.